Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à Saint-Denis, près de Paris, dans ce qu'on appelle les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Et pour commencer cette série de deux podcasts sur le sujet, je vous invite à la découverte d'un premier atelier, l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais, et à la rencontre d'une mouleur et d'une patineuse qui ont accepté de me présenter leur métier passionnant. Je profite de ce podcast pour vous inviter également à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, ma toute nouvelle newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr. La première lettre sera envoyée le 15 janvier prochain, alors n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. À l'occasion de la troisième édition de Paris Local en novembre dernier, je me suis rendu à Saint-Denis en proche banlieue parisienne où j'ai eu la chance de visiter les ateliers de la RMN Grand Palais, la RMN signifiant la Réunion des musées nationaux. Pour rappel, Paris Local invite chaque année les Parisiens et les touristes à plonger au cœur des talents qui font battre le pouls artisanal du Grand Paris. Cet événement unique offre une opportunité rare de découvrir la richesse de savoir-faire locaux et durables, traditionnels ou innovants et toujours passionnants. Parmi les entreprises coup de cœur que j'ai pu découvrir, les ateliers d'art de la RMN Grand Palais m'ont particulièrement marqué par leur précieux savoir-faire séculaire. J'ai ainsi décidé de revenir explorer plus en détail les deux ateliers qui le composent en fin d'année dernière. L'atelier de moulage de la RMN Grand Palais tout d'abord, dont les artisans font revivre les plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture en réalisant des reproductions de haute qualité grâce à leur savoir-faire traditionnel unique. Et l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais, ensuite, dont la mission est de conserver et d'imprimer une collection de plusieurs milliers de cuivres gravés. À l'occasion de cette visite riche de découvertes, j'ai également eu la chance de rencontrer et de m'entretenir avec trois personnes passionnantes parmi celles qui veillent à préserver ces métiers d'art. Je vous propose donc deux podcasts qui relatent ma visite de chacun de ces deux ateliers et qui partagent les interviews des artisans passionnés que j'ai pu rencontrer. Pour l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais, j'ai ainsi pu m'entretenir avec Perrine Sastre-Miral, qui est mouleur, mouleur avec un E, ce n'est pas courant, et Romane Pradier, qui elle est patineuse. L'atelier de moulage et ma rencontre avec ces deux jeunes femmes sont l'objet du podcast d'aujourd'hui. Le second podcast, à retrouver également sur mon site, lescarnetsdigor.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, vous permet de suivre ma visite de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais et de rencontrer Marius Tessier, un jeune artisan enthousiaste qui nous explique son métier d'imprimeur taille-doucier. Mais avant toute chose, revenons sur les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Peu connus du grand public, les ateliers d'art de la RMN Grand Palais sont pourtant au cœur de la préservation et de la transmission de savoir-faire créatifs séculaires et d'un patrimoine artistique unique. Ils jouent ainsi un rôle central au sein de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, dont la mission est de diffuser et démocratiser l'art à travers, entre autres actions, l'organisation d'expositions, la gestion de l'accueil des publics, la médiation culturelle ou encore la gestion des boutiques des musées. Labellisé Label France Savoir-faire d'excellence et Label Entreprise du patrimoine vivant, EPV, les ateliers d'art de la RMN Grand Palais incarnent une excellence reconnue dans la préservation et la reproduction des œuvres d'art. Fondés pendant la Révolution française, ils regroupent l'atelier de moulage et l'atelier de calcographie, deux entités dont les artisans talentueux participent à la sauvegarde d'un ensemble de techniques et de métiers d'exception. Pour information, si cela vous intéresse d'aller plus loin, sachez que tout au long de l'année, les ateliers d'art de la RMN Grand Palais proposent des visites guidées. Les réservations pour ces visites se font sur le site exploreparis.com. Tous les détails sont dans l'article publié sur mon site lescarnetsdigor.fr. Mais sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir les portes de l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais. Depuis plus de deux siècles, cet atelier insuffle une seconde vie au plus grand chef-d'œuvre de la sculpture. Grâce à des techniques à la fois traditionnelles et modernes, il réalise des répliques de très grande qualité des statues emblématiques de l'histoire de l'art. La collection de moules de l'atelier que j'ai pu explorer est fascinante. À elle seule, c'est une véritable chronique historique de la sculpture et elle en représente les différentes périodes artistiques. De l'art préhistorique aux antiquités orientales, égyptiennes, gréco-romaines, étrusques et gallo-romaines, mais aussi des plus belles œuvres issues des écoles françaises, italiennes et d'Europe du Nord, du Moyen-Âge et de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. On y trouve par exemple des reproductions de la Vénus de Milo, des esclaves de Michel-Ange, des animaux de François Pompon ou encore l'étonnante série des représentations de la Marianne républicaine. Au sein de l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais, les artisans mouleurs statutaires s'appliquent à reproduire fidèlement tous ces chefs-d'œuvre dans le respect des modèles originaux issus des plus célèbres musées nationaux, du Louvre au château de Versailles en passant par le musée d'Orsay. Grâce à leur expertise et au savoir-faire qu'ils maîtrisent et perpétuent, les artisans mouleurs statutaires, qui réalisent les prises d'empreintes ou encore le moulage des œuvres, comme les artisans patineurs, qui eux réalisent les finitions, œuvrent ainsi à la sauvegarde d'une collection de plus de 6000 moules. Pour en savoir plus, je vous propose de retrouver tout de suite l'interview conjointe que j'ai réalisée de Perrine Sastre-Miral et de Romane Pradier, respectivement mouleur, mouleur avec un E toujours, et patineuse au sein de l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais. Elles nous disent tout de leur parcours et de leur métier passion qu'elles ont choisi de vivre pleinement. Alors bonjour Romane Pradier, vous êtes patineuse statuaire ici au sein de l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais. Et vous, Perrine Sastre, vous êtes mouleur. Alors mouleur avec un E, c'est assez original, c'est un terme que je découvre ici. Toutes les deux, vous allez nous en dire plus sur ce que cela signifie. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter et nous expliquer votre parcours et comment vous êtes arrivée ici, donc à l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais? Perrine d'abord, puis ensuite Romane, je vous laisserai prendre la suite. Donc Perrine.
Donc bonjour, je m'appelle Perrine, j'ai 32 ans. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai commencé par une licence et un master d'histoire de l'art. Et à l'issue de ce master, j'avais envie de quelque chose qui conjugue l'histoire de l'art avec quelque chose de plus manuel. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le métier de mouleur statuaire. Alors il faut savoir que pour être mouleur, il n'y a pas de formation propre. Moi j'ai fait un CAP de staffeur ornemaniste. Donc le staff, c'est la réalisation d'ornements en plâtre. Donc ça m'a appris à travailler la
Matière,
matière.
ouais.
J'ai fait ce CAP en alternance et il se trouve que la boîte qui m'a pris en alternance, c'était la RMN Grand Palais, donc qui faisait du moulage statuaire, donc parfait. J'ai passé 2 ans en apprentissage où j'ai découvert le métier, où j'ai appris énormément. Suite à ces 2 ans d'apprentissage, je suis partie ensuite dans un atelier privé qui s'appelle l'atelier Lorenzi. Et là, ça fait quelques mois que je suis revenue à la RMN Grand Palais et que donc je suis ici.
Super. Et vous, donc Romane, je vous laisse. Vous avez un parcours un peu différent, je crois, un peu plus traditionnel, on va dire, pour une patineuse statuaire.
Effectivement, alors bonjour,
Bonjour.
Romane Pradier, j'ai 26 ans. Alors moi, j'ai toujours été dans le domaine de l'art, si je puis dire ça comme ça. J'ai été dans le domaine de la peinture décorative. Donc tout d'abord, j'ai fait un brevet des métiers d'art, option graphisme et décor peint. Ensuite, j'ai fait un diplôme des métiers d'art, décor architectural, option décor du mur. Et ensuite, je suis partie à Lyon pour faire une mention complémentaire au Compagnon du Tour de France, toujours dans la peinture décorative. Après, je suis revenue sur Paris où j'ai fait une deuxième mention complémentaire et c'est là en fait que je suis rentrée à la Réunion des Musées Grand Palais, à la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais. C'est vrai que c'est un nom un petit peu long. Voilà, donc j'ai fait mon apprentissage ici à l'atelier de patine pendant un an.
D'accord.
Et à la suite de ça, j'ai fait plusieurs CDD jusqu'à être embauchée en fait il y a un peu plus d'un an à l'atelier de
Super,
patine.
félicitations.
Merci.
Super, c'était très, très clair. Donc, vous voyez, deux parcours différents, des personnes assez jeunes finalement qui travaillent dans cet atelier de moulage de la RMN Grand Palais, donc qui a été fondé, je crois, il y a plus de 2 siècles. Donc, c'est des personnes jeunes dans un environnement
C'est
historique.
ça.
Perrine, vous pouvez peut-être nous présenter son histoire, justement, l'histoire de cet atelier de moulage de la RMN Grand Palais, puis nous expliquer le rôle et les missions de cet atelier qui, j'en suis sûr, sont assez méconnus pour de nombreuses personnes qui nous écoutent.
Oui, alors comme vous l'avez dit, donc l'atelier a été créé après la Révolution en 1794 exactement, soit un an après la création du Louvre en tant que musée. Donc c'est un atelier qui a été créé en premier lieu pour diffuser les grands modèles auprès des écoles d'art, puisque ça n'existait pas avant. Au milieu du 19e siècle, il s'est ouvert à la vente aux particuliers. Donc c'est finalement quelque chose d'assez récent. Et dans les années 20, il a déménagé du Louvre au Trocadéro. Et c'est aussi à cette période qu'il y a eu la création de l'atelier de patine.
D'accord.
Donc il est resté au Trocadéro jusqu'en 1997, où là, il a redéménagé pour aller à Saint-Denis, où il s'y trouve toujours. Et à l'heure actuelle, donc les moulages sont toujours vendus aux particuliers, mais aussi aux institutions et dans tout un réseau de boutiques de la RMN Grand Palais.
D'accord.
Et donc voilà, la RMN regroupe une énorme quantité de modèles et de moules. Et on fait aussi des partenariats avec des artistes contemporains. Donc récemment, c'était Daniel Archam, ça a été aussi Jeff Koons,
D'accord.
JR, voilà.
Ok, super. Donc en fait, effectivement, là, c'est l'idée, c'est que vous reproduisez des modèles historiques, des modèles plus
Voilà.
contemporains, et aussi il y a de la création,
Oui,
je crois,
on s'ouvre un petit peu,
plus
oui, à des choses
contemporaine, en
plus
tout cas.
actuelles. Et puis ça permet d'avoir une visibilité autre, c'est vrai, de faire ces collaborations. Pour nous, ça change un peu le travail
Oui,
aussi.
c'est
C'est
ça.
une vieille structure
Ça
historique, mais
diversifie en
ça,
fait aussi, et
voilà.
puis même les façons de. J'imagine que les moulages sont pas les mêmes, enfin, en tout cas,
Les techniques sont
les
pas
techniques, c'est pas
forcément les
forcément.
mêmes. C'est vrai que ça diversifie un petit peu et puis ça nous ancre un peu plus dans notre période actuelle. Voilà.
Merci. Donc maintenant, nous connaissons l'histoire et le rôle de l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais et j'aimerais donc entrer dans les détails des différents métiers qu'on peut y trouver, les différentes étapes aussi qu'on va pouvoir observer dans cet atelier, depuis la réception d'une commande jusqu'à sa finalisation. Parce qu'en effet, quand on visite l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais, on se rend compte que chaque talent compte pour réussir à produire le moulage d'une œuvre d'art, le moulage final. Et finalement, on voit bien que chaque pièce est le fruit d'un véritable travail collectif. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux. Vous avez souhaité répondre à
Exactement.
deux parce que justement, c'est un travail qui doit s'expliquer à travers les différents métiers, les différents savoir-faire. Perrine, d'abord, vous pouvez nous présenter peut-être les premières étapes de réalisation d'un moulage, depuis la réception de la commande jusqu'à votre métier, donc celui de mouleur, mouleur avec un E toujours, je rappelle. Je vous laisse.
Oui, alors donc mon métier comprend deux parties. Il y a la réalisation des moules et la réalisation des moulages, donc qu'on appelle tirage. Donc je vais vous parler déjà des moules. Donc c'est vrai que la collection ne cesse de s'enrichir puisque les mouleurs continuent à réaliser des prises d'empreintes sur les pièces originales dans les musées. Donc on réalise maintenant des prises d'empreintes avec du silicone. Historiquement, c'était avec du plâtre. Et la difficulté de ces prises d'empreintes, c'est qu'il faut réussir à bien raisonner le moule, donc imaginer les différentes parties qu'il y aura, c'est-à-dire faire une découpe mentale en fait du moule pour une bonne utilisation de celui-ci, mais aussi pour pas altérer le modèle original en démoulant. Donc ça, c'est pour la partie moule. Et
Une fois que le moule
voilà,
existe,
une fois que le moule existe, donc qu'on l'ait
faut le
fait ou qu'on
réaliser.
aille le chercher lorsqu'on a une commande dans notre collection, donc on a une collection d'environ 6 000 références.
Quand même.
Donc, quand on a une commande, on va chercher ce moule dans les réserves, on le descend dans l'atelier, on le nettoie et ensuite on va travailler le plâtre de quatre manières différentes. Donc, on va
D'accord.
avoir un premier plâtre qu'on va utiliser assez liquide et qu'on va imprimer à la surface du moule au pinceau.
D'accord.
Donc, au fur et à mesure que le plâtre s'épaissit, on va le monter en épaisseur sur toute la surface du moule pour arriver à peu près à 5 mm d'épaisseur uniformément partout.
D'accord.
Suite à ça, on va réaliser un deuxième plâtre qui va servir à armer cette première couche qu'on aura faite. Donc pour ça, on va tremper dans ce plâtre une fibre végétale qu'on appelle filasse et qu'on va tapisser voilà, sur le premier plâtre. Ensuite, on va faire un troisième plâtre qui sera plus crémeux et cette fois qu'on va venir déposer en cordon le long des différentes parties du moule à sceller.
D'accord.
Donc on va ensuite fermer ce moule. Et on va attendre 30 minutes environ, donc ce qui est le temps de prise du plâtre. Et une fois qu'il est prêt à être démoulé, on va ouvrir le moule. Et donc là vient la dernière étape, on va ébarber la couture. Donc la couture, c'est une petite épaisseur qui marque la jonction entre les différentes parties du moule. Donc on va la supprimer à l'outil. Et on va utiliser un dernier plâtre qui va nous servir à reboucher les défauts et les petites bulles qu'il pourrait y avoir pour qu'enfin on ne voit plus le travail du mouleur, puisque notre but c'est de nous rapprocher au plus près du modèle original, donc il faut qu'on efface notre trace de
Ouais, qu'on ait
passage.
l'impression finalement que
Voilà.
ça a été sculpté en fait, c'est ça?
Exactement. En fait, il ne
Ouais.
faut pas qu'on nous voie.
Non, c'est
Voilà.
ça. Mais c'est intéressant parce qu'on s'imagine pas. Moi, j'imaginais qu'on avait un moule, on mettait tout le
Ah
plâtre
oui,
d'un
non,
coup,
non.
puis après on démoule, puis c'est
Non,
fini. En fait, c'est beaucoup trop
hormis les
complexe.
petits tirages vraiment qu'on va faire plein, tous les tirages sinon sont creux. Donc
Ah oui,
c'est pour ça,
d'accord. Ouais,
voilà.
c'est.
C'est pour ça qu'on les tapisse de filasse, ça sert à
Oui,
les
pour
rendre
que
très
ça.
solides mais creux, donc plus légers aussi.
Oui, plus léger
Et
aussi,
puis moins de
c'est sûr.
matière dedans, voilà.
Aussi, donc
Ouais.
il y a des économies aussi peut-être. Et donc après, donc une fois que vous avez fait que le moulage
Voilà.
est réalisé, que ça a été
Alors,
ébarbé,
voilà tout
etc., vous
ça.
passez la main.
Alors, une fois qu'on
Ah,
a terminé notre tirage, on va le mettre
il est
dans
trop
l'étuve, qui est une pièce chauffée. Et une fois qu'elle est sèche, c'est à Romain
De
de faire
prendre
le
la
travail.
suite,
Voilà.
donc la patineuse qui récupère le bébé, quoi. Donc et là,
Voilà.
qu'est-ce qui se passe?
Exactement. Donc, moi, après, mon rôle, c'est. Voilà. Donc, je vais chercher la pièce brute à l'étuve. Et vraiment, le rôle de l'atelier de patine, c'est vraiment l'étape de finition. Donc, c'est vraiment la dernière étape. Et ensuite, la pièce part chez notre client ou dans nos boutiques. Donc, le but de la patine, c'est vraiment de donner un effet de matière au plâtre brut et aussi de donner l'effet du temps qui passe
Oui, c'est ça,
dessus.
parce qu'en fait, on réalise des moulages sur d'œuvres parfois séculaires, forcément, et on a envie de rendre aussi cet aspect vieilli, cet aspect historique, en fait.
Exactement, et c'est ça qui est en fait le plus difficile dans cette histoire. Donc nous, on reproduit vraiment toutes sortes de matières. On peut faire aussi bien du bois que du marbre, que de la terre cuite, que de la céramique émaillée. En fait, on fait énormément de matières. Donc on a la même technique depuis la création des ateliers. On utilise toujours les mêmes produits. Donc, on utilise en... Donc, il y a trois étapes en fait dans la patine. La première étape, c'est l'étape de la gomme laque. Donc, en fait, on mélange des pigments à la gomme laque et on passe ce jus sur la totalité de la surface. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va donner la couleur, vraiment
La base, quoi, non, c'est
la
ça.
base de la matière qu'on veut faire en fait. Donc, il y a ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape de l'encaustique. Donc, c'est de la cire d'abeille qu'on mélange avec de la térébenthine et toujours des pigments. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui va être dans les creux du volume. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui va donner un peu l'aspect vieilli
Ouais,
à la
d'accord.
pièce. Donc, si on faisait pas cette étape-là, on aurait quelque chose de trop neuf. Et
Oui, c'est
vraiment,
ça.
voilà,
De
donc notre
brillant,
but,
de un peu trop, ouais.
exactement. Donc, vraiment, l'encaustique, ça va un peu encrasser les fonds, donner l'effet vieilli, voilà. Et ensuite, c'est l'étape du poudrage. Donc là, c'est du talc mélangé toujours avec des pigments qu'on passe là, cette fois-ci, que sur les hauteurs. Et c'est
D'accord.
vraiment ce qui va faire un effet de profondeur et qui va vraiment finir
Et
à
ça, il tient
perfection
en
la
place
pièce.
le plâtre, le
Le
talc comme
poudrage,
ça, ouais.
ouais, bah en fait, le poudrage tient grâce à l'encaustique qu'on a
Ah oui,
passé
c'est ça, vous
avant.
avez mis avant, d'accord,
Donc on
ok.
ne peut pas zapper une étape. C'est
Non, il faut
vraiment
vraiment tout. Oui, non, mais bien
les
sûr,
trois
j'imagine.
étapes qui sont nécessaires pour faire une belle patine. Voilà. Donc après,
D'accord.
les pigments, en fait, ils sont adaptés suivant la matière qu'on veut donner
Oui, donc vous avez un vrai travail d'observation avant de
Exactement.
comment est l'œuvre originale et à quel endroit il faut agir.
Exactement. Bah, en fait, nous, quand on peut, la plupart du temps, on se déplace directement dans les musées, en fait. Donc, on va dans les musées avec nos petits pigments, etc. Et on fait nos relevés patines devant l'œuvre originale. Donc, ce qui nous permet en fait de rapporter ce petit relevé dans nos ateliers. Et vraiment, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment faire tout le travail de recherche de pigments, vraiment, et que voilà. Donc, le but, c'est vraiment de s'approcher le plus possible de l'œuvre originale.
Super, merci. Je pense que c'est assez clair et hyper intéressant aussi parce qu'on apprend qu'il y a énormément d'étapes finalement pour arriver à un résultat
Effectivement.
proche du réel, enfin proche de l'œuvre originale en tout cas. Alors pour finir, j'ai une question pour chacune plus personnelle, on va dire. Vous avez travaillé sur plein d'œuvres pendant votre courte carrière, mais enfin quand même. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier que vous avez préféré travailler et si oui, pourquoi? Alors je ne sais pas, peut-être Perrine.
Alors, moi, j'ai réalisé le moule du Hercule Farnèse des jardins du château de Versailles avec des collègues en septembre, là, donc il y a quelques mois. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience incroyable parce que c'est une très belle sculpture de Jean Cornu qui a été réalisée au XVIIe siècle et qui est très grande. Elle mesure 3,40 m. Donc, on a passé 3 semaines à réaliser le moule et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un privilège de mouler directement
Bien
à
sûr.
Versailles sur un marbre qui est aussi vieux, donc il y a plus de 3 siècles, et c'est une expérience qui m'a marquée. Donc je me sens chanceuse.
Très bien. Et vous, Romane?
Alors moi, ma pièce préférée, je dirais que c'est la Belle Florentine qui est exposée au Louvre. Donc c'est un buste de femme en bois polychromé. Et en fait, j'aime beaucoup cette pièce parce que c'est une pièce qui est très complexe à réaliser, mais à la fois fascinante à faire. En fait, ce qui est très compliqué sur cette pièce, c'est que du coup, il faut retrouver tous les pigments pour chaque partie du buste. Donc, c'est-à-dire il faut retrouver la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la couleur du tissu. Il y a aussi une apposition de feuilles d'or sur le vêtement avec une sorte de motif. Donc vraiment, c'est une patine qui est complexe, mais qui est super à faire. Et ce qui est difficile vraiment, d'autant plus sur cette pièce, c'est vraiment de faire illusion que cette pièce n'est pas neuve en
Oui,
fait,
c'est
enfin,
ça,
vraiment
toujours
de
le
voilà. Et
même
mais d'autant
principe.
plus, en fait, il y a des pièces où vraiment c'est plus compliqué que d'autres, et celle-ci c'est
Oui, parce qu'il y a
très très
beaucoup plus de
complexe.
couleurs aussi, beaucoup plus de jeux de matière
Exactement,
et voilà.
il y a des effets de craquelure,
Ouais.
des parties où le bois est un peu où la couleur du bois est un peu partie, etc. Donc c'est ça qui est très
Ah, ça, vous
complexe.
devez reproduire en plate finalement une œuvre qui est en bois à la base. Donc déjà, c'est un
Exactement.
challenge. Et ça, par exemple, une sculpture comme ça à patiner, c'est combien de temps la patine de...
Alors celle-ci, elle est assez longue. Je dirais que c'est environ 5 jours de
Ah oui, quand
travail
même,
plein.
5 jours de travail, d'accord,
Ouais.
ok. Super. Écoutez, merci Perrine, merci Romane pour vos
De rien.
explications et pour le
Avec
partage
plaisir.
de vos métiers respectifs. C'était passionnant et je pense que les auditeurs, enfin j'espère en tout cas, ont été passionnés aussi.
On espère aussi.
Oui, voilà. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, alors il y a évidemment l'article illustré sur mon site, hein, lescarnetdigor.fr. Là, vous pourrez voir des photos et de ma visite. mais aussi vous pouvez vous rendre sur le site des ateliers d'art de la RMN Grand Palais, bien sûr, pour avoir plus d'informations sur l'historique, sur le travail qui est fait, et même vous inscrire pour des visites guidées, je crois, sur le site exploreparis.com. Je vous ai mis tout ça dans mon blog et sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est très intéressant, passionnant, et c'est à quelques minutes de Paris, donc ce n'est pas loin. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, j'espère que cette exploration de l'atelier de moulage de la RMN Grand Palais ainsi que les interviews de nos deux artisanes vous ont plu et passionné. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à écouter le podcast dédié à ma visite de l'atelier de calcographie de la RMN Grand Palais où je partage avec vous ma rencontre avec l'un de ses artisans, Marius Tessier. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ma visite des ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux Grand Palais dans l'article illustré sur mon site lescarnetsdigor.fr, un site où vous pourrez aussi découvrir d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Et enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.